Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Comme chaque jour, aussitôt après le flash de 13h sur Europe 1, nous retrouvons Franck Ferrand pour une plongée revigorante au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors si je vous dis qu'aujourd'hui, je vous emmène à la fois dans la Vienne impériale et dans les profondeurs de la psychologie, vous allez me dire que nous allons parler...
Du docteur Freud, évidemment.
Évidemment. Mais vous allez voir que parfois, un génie peut en cacher un autre. Et dans mon récit à 13h30, c'est une personnalité très proche de Freud, mais beaucoup moins connue que lui, que je me propose de vous faire rencontrer. Marie Bonaparte était à la fois princesse et psychanalyste.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Entendu il y a quelques jours, dans une seule et même émission de télé, les mots refoulé, Œdipe, acte manqué, subconscient et pensée. Si seulement Freud pouvait vivre ça, si cet homme qui, en son temps, a eu tellement de mal à faire admettre ses concepts, pouvait constater un siècle plus tard à quel point ses théories sont devenues des références communes et même, amère consécration, des références galvaudées. Combien de découvreurs, dans l'histoire récente, peuvent se targuer d'avoir autant changé l'image que l'humanité se fait d'elle-même? C'est que Sigmund Freud fait partie des rares éclaireurs qui ont osé s'aventurer là où personne n'était allé avant eux, et du coup, il a ouvert à ses congénères des horizons inexplorés à peu près vierges, pas toujours agréables d'ailleurs. Il y avait un avant Freud, il y a un après Freud, et véritablement, le monde, on peut le dire, a basculé sous l'influence du médecin viennois. Je dis médecin viennois parce que, comme toujours, et nous allons le voir avec mes invités dans un instant, le lieu et l'époque sont déterminants dans cette histoire. C'est pas un hasard si nous sommes à Vienne, peu avant 1900, à l'époque de la sécession dans les arts, dans cette Vienne intuitive et antiquisante de Klimt, d'Olbricht, de Hoffmann, c'est au cœur de cet empire austro-hongrois politiquement stationnaire, mais si brillant intellectuellement, que l'humanité moderne va s'intéresser de près au repli secret de la psyché. Eh bien, le grand homme de cette aventure, c'est Freud, évidemment. Alors, contrairement à ce qu'on croit parfois, notre homme n'est pas né dans la grande bourgeoisie. Sigismond, c'est son vrai prénom, est né en 1856 à Freiberg, en Moravie. Moravie, dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Son père était un négociant juif de petite envergure, un brave homme que la crise du textile aggravée par une flambée d'antisémitisme a poussé à l'exode avec sa deuxième femme, Amalia. Elle a 17 ans de moins que lui. Et leurs enfants, dont le petit Sigismond, qui à l'époque a 4 ans. Au moment donc de l'exode de ses parents. Il a deux demi-frères qui sont nés d'un premier mariage de son père, mais lui, il est l'aîné des 8 enfants de ce second lit. Alors, pour le jeune Freud, il va germaniser son prénom et se faire appeler Sigmund à partir de l'âge de 21-22 ans. Pour Sigmund Freud, le rêve familial d'ascension sociale passe par de grandes études et il choisit, ou plutôt on choisit pour lui, des études de médecine. Un indice de son peu d'enthousiasme, il lui faut quand même 3 ans de plus que la normale pour obtenir son doctorat. Pas très doué, semble-t-il, le docteur Freud, mais très très ambitieux, ce qui compense, si j'ose employer le terme. Pas étonnant qu'à l'exercice pratique de la médecine, Sigmund préfère dans ces conditions la recherche théorique. Il fait son doctorat sous la direction du professeur Bruck, qui étudie le système nerveux à travers des expériences sur les anguilles et les écrevisses. Il ne faut jamais sous-estimer l'intérêt des écrevisses, vous savez. Comment Freud, dans ces conditions, va-t-il passer de la théorie à la pratique? Eh bien, comme souvent, par pure nécessité. En 1882, il rencontre une jeune femme ravissante, Martha, avec laquelle il se fiance, ce qui lui crée des besoins financiers. Son vieux maître Brücke lui conseille d'abandonner le laboratoire pour un cabinet de praticien. Et voilà Freud qui entre à l'hôpital général de Vienne. En 83, il est l'assistant du professeur Meinert. Il décide de se consacrer à la neurologie. C'est là qu'il rencontre son collègue Breuer, dont on va parler dans un instant. Breuer qui va devenir un petit peu plus tard, si vous voulez, son complice dans des explorations d'un genre nouveau. En attendant, ses premiers travaux sur la moelle épinière lui valent une bourse de 600 florins. C'est mieux que rien et ça lui permet de venir faire un stage à Paris, un stage de 5 mois. Alors, pourquoi Paris ? Parce qu'à l'époque, la France est à la pointe de la recherche médicale et que c'est à Paris, à la Salpêtrière, qu'enseigne le plus illustre neurologue de son temps, le professeur Charcot. On en a parlé ici, un très grand bonhomme, Charcot, le père de l'explorateur. Freud, disons-le, est ébloui. Surtout, il est sidéré par la puissance des démonstrations de Charcot, démonstrations de psychologie appliquées sur des malades hystériques. Pour le jeune Viennois, les happenings du père Charcot sont un choc, une révélation qui va décider de tout le reste. À Paris, à l'âge de 30 ans, Sigmund Freud vient de comprendre une chose d'une importance considérable, c'est que dans la matière qui l'intéresse, la neurologie, les troubles constatés chez certains patients ne sont pas d'origine physique, comme on l'avait toujours dit, pensé, enseigné jusqu'alors, mais bel et bien d'origine psychique, ce qui ouvre des perspectives phénoménales. Quand il rentre à Vienne pour ouvrir son propre cabinet, on est donc là en avril de 86, Freud n'est plus le même homme. Martha, elle, n'a pas changé, elle l'a attendu. Il l'épouse en septembre. Allez, on peut dire que c'est prêt. Tout peut commencer et tout va commencer avec mes deux invités. Je reçois dans un instant Gérard Miller, que vous connaissez bien évidemment et que vous retrouvez très souvent chez Laurent Ruquier sur Europe 1, et Alain de Mijola, qui est historien et psychanalyste et président fondateur de l'Association internationale d'histoire de la psychanalyse. Nous les retrouvons dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et en attendant le récit de Franck, nous vous retrouvons avec vos invités sur Europe 1. Gérard Miller, psychanalyste, professeur à l'Université Paris 8, écrivain et chroniqueur sur Europe 1. Dont on va se gêner avec Laurent Ruquier et Alain de Mijola, qui est historien et psychanalyste, auteur notamment de Freud et la France aux presses universitaires de France.
Merci à vous deux de nous avoir rejoints dans ce studio. Alors, on peut dire que lorsque Freud rentre de Paris, c'est un homme qui a changé, Alain de Mijola. Il est convaincu de l'origine psychique d'un certain nombre d'affections nerveuses, c'est ça ?
Oui, bien sûr, il est tout à fait changé. Il a subi l'influence extraordinaire de Charcot. Il a été pétrifié d'admiration pour ce maître.
D'ailleurs, il y aura un tableau représentant la leçon de Charcot dans le cabinet de Freud.
Toujours dans son cabinet, il aura cette fameuse gravure, mm-hmm. Oui, tout à fait. Et il est tout le temps poursuivi au départ par ce personnage. Ils ont toute une correspondance suivie tous les deux après le départ. Et surtout, bon, il va petit à petit se diriger vers une recherche systématique de l'origine psychique des symptômes qu'il voit. Qui au départ sont des symptômes organiques. Tandis que lui va étendre ça progressivement aux symptômes psychiques,
voilà,
aussi.
Au départ, il travaille sous hypnose, en fait. C'est ça, Gérard Miller.
C'est un hypnotiseur, un très mauvais hypnotiseur, d'ailleurs.
Ah bon ?
Il le raconte lui-même très souvent quand il hypnotisait ses patients et qu'au bout d'un certain temps, il disait « Voilà, maintenant vous dormez ». Il entendait son patient lui dire « Ben non, docteur, je ne dors pas ». Il disait « Si, quand même, un peu hein. ». Et c'est notamment pour ça, pas la seule raison, qu'il va allonger ses patients sur le fameux divan pour essayer de recréer une ambiance proche de celle de l'hypnose pour qu'il y ait, en quelque sorte, cet état qu'il a à un moment appelé hypnoïde, qui pouvait effectivement aider à la réminiscence d'un certain nombre de souvenirs. C'est un hypnotiseur.
Il y a dû y avoir pour lui un moment extraordinaire. C'est le jour où il s'est rendu compte que sans hypnose, il arrivait à faire sortir, si je puis dire, de la psyché de ses patients un certain nombre d'éléments signifiants.
Oui. Alors vous savez qu'au début, il avait une méthode très curieuse que personne ne commande, c'est-à-dire qu'il allongeait les gens, il mettait sa main sur la tête du patient et il lui disait la première chose qui va vous venir à l'esprit lorsque je retirerai ma main, donc c'était encore de la suggestion comme l'hypnose, c'est une chose importante. Et puis progressivement, effectivement, il s'aperçoit d'abord que beaucoup de gens ne sont pas hypnotisables, que lui n'y arrive pas, et que, en effet, sans hypnose, on peut recréer un état proche de celui qui existe en hypnose.
Est-ce qu'il pratique encore est-ce qu'on peut dire qu'il pratique la médecine à ce moment-là, Alain de Mijola,
ou
est-ce
que... D'emblée, tout à fait à distance de ça. Enfin, sinon, ce que vous appelez la médecine, si c'est la médecine courante, générale, non, il est déjà spécialiste des maladies nerveuses quand même.
Il travaille avec Breuer.
Alors,
Joseph
il ne travaille
Breuer.
Pas avec Breuer. Oui. Non, il connaît Breuer mm-hmm. depuis longtemps. Breuer lui a raconté un jour l'histoire d'Anna O, et puis ils sont...
Anna O, alors parce qu'on ne donne pas son nom de famille,
Anna
c'est ça ?
Anna O, oui, bien sûr.
Elle est connue comme étant Bertha Pappenheim.
Ah, si vous le dévoilez.
Qui est quand même une héroïne de l'Allemagne, parce qu'il se trouve que ça va être, paraît-il, la première assistante sociale.
Sociale,
il y a même un timbre de Bertha Pépin. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on préserve l'anonymat. Bah, plus d'un siècle après, on peut quand même révéler son identité.
Oui, c'est Jones, je crois, qui est le premier l'a révélé.
Et c'est une patiente de Breuer?
De Breuer, oui. Uniquement. C'était à l'époque où Freud était encore un anatomopathologiste, et uniquement un anatomopathologiste. Il lui avait raconté ça un soir, ça l'avait intéressé, et puis petit à petit, au fur et à mesure de son chemin dans sa clientèle, après avoir essayé ce qui se faisait effectivement, c'est-à-dire les trucs électriques, on envoyait des courants, on faisait des tas de choses. Après, il a essayé l'hypnose. Et puis, il est arrivé un moment où il s'est aperçu que l'histoire d'Anao, la talking cure, comme on disait, c'était de la cure par la parole, avait quelque chose d'important et d'exact. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à l'appliquer à ses patients.
Il y a un film qui, moi, m'a marqué dans ma jeunesse. Alors, je ne sais pas s'il est très exact sur un plan historique. C'est le célèbre film de John Huston avec Monty Clift qui s'appelle Freud, Passion secrète. Mmh. On va en entendre un extrait. Ils sont justement tous les deux, Freud et Breuer, en train de parler de d'une patiente.
Sûrement, des associations sexuelles peuvent être observées dans presque tous les cas, si vous les cherchez par tous les moyens. Freud, je ne peux nier l'importance de la sexualité dans la vie en tant que facteur contribuant, mais vous ne me convaincrez pas que c'est la seule et unique cause des névroses.
Breuer, cette théorie est basée sur des faits. Nous l'avons poursuivie tous les deux. Maintenant que vous voyez où elle conduit, vous en avez peur?
Oh, mais voyons, Freud, je pratique la médecine depuis plus de 15 ans. Écouter des secrets d'alcôve, pour moi, ce n'est qu'une habitude. Ne me croyez pas trop prude.
Est-ce que, justement, Breuer était trop prude pour Freud? Est-ce que ça lui faisait peur?
Vous savez qui devait écrire le scénario de ce film? C'est Jean-Paul Sartre.
Ah oui.
On peut lire, d'ailleurs, Gallimard, je crois, a publié le scénario Freud de Sartre, qui est formidable, et ils se sont fâchés, ou en tout cas, ils ne se sont pas entendus. Breuer, donc, c'est amusant, c'était l'aîné de Freud, effectivement un homme plutôt prude, et surtout qui va vivre dans l'histoire d'Anao quelque chose qui est décisif, dont le grand biographe de Freud, qui s'appelle Ernest Jones, ne parle pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour simplifier, Anao, prenant un peu trop d'importance dans la vie de Breuer, s'est vu signifier par Breuer l'arrêt de la cure. Parce que Madame Breuer s'inquiétait, elle trouvait que Breuer allait un peu trop souvent chez sa patiente, parce qu'à l'époque, il se rendait chez elle pour l'hypnotiser. Et elle était très disponible, notamment en fin d'après-midi, vous voyez, le soir. Et à un moment donné,
entre
il lui annonce...
Et 7.
Entre 5 et 7. Et il lui dit, c'est fini, je ne peux plus. Et la nuit même, on réveille Breuer. À l'époque, on faisait ça avec les psychanalystes, les médecins. On réveille, on dit, elle a... Je simplifie, une grossesse hystérique. Donc c'est comme si ce départ de Breuer avait provoqué chez elle quelque chose, effectivement, de très sexuel. Et Breuer est absolument terrifié par ce qu'il voit. Freud se dit, mais comment c'est possible? Quand même, Breuer n'est pas spécialement séduisant. Enfin, c'était un homme qui avait du charme, mais n'exagérons pas. Et Freud est convaincu que ça n'arrivera jamais avec lui. Et donc, on est à l'aube de la découverte du transfert. Et d'ailleurs, il y a une lettre formidable, que je la connaisse, de la femme de Freud qui lui dit, quand je vois cette profession un peu étrange où on se met à tomber amoureux de son médecin, et Freud lui répond, écoute ma chérie, il n'y a que toi qui peux être amoureuse de moi, jamais personne ne le sera. Au point que Freud, les premiers temps où ses patients tombaient, entre guillemets, dans le transfert et donc dans l'amour, les envoyait chez d'autres médecins en se disant, ça ne se produira pas. Et à un moment, il s'est aperçu que même si on n'était pas Brad Pitt, même si on n'était pas séduisant, eh ben, il se passait du transfert.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et avant de retrouver votre récit, Franck, nous sommes toujours en compagnie de Gérard Miller, qui est psychanalyste et professeur à l'Université Paris 8, et Alain Demijola, historien et psychanalyste, président fondateur de l'Association internationale d'histoire de la psychanalyse.
Vous savez, ce que j'aimerais bien, Alain Demijola, c'est que vous nous expliquiez quand ces expériences, qui au départ évidemment procédaient largement du tâtonnement et de l'empirisme, quand cet ensemble d'expériences se constitue en un véritable corps d'enseignement et qu'on peut parler de psychanalyse au sens propre. On peut dater ça à peu près?
Oui, le mot psychoanalyse apparaît pour la première fois en français, dans un article en français que Freud a écrit en 1896, c'est-à-dire 10 ans après le début des recherches de Freud sur des patients. Ça apparaît en 1996, un an après qu'avec Breuer, il ait publié les études sur l'hystérie, qui racontent des histoires de psychothérapie de différentes patientes. Et donc, c'est là qu'il a commencé aussi à s'intéresser aux rêves. Il commence à s'intéresser à ses propres rêves, et puis donc aux rêves de ses patients. Et il commence à trouver que les rêves ont tous un sens, et que c'est tout un travail d'interprétation qu'il faut faire pour trouver ce sens.
Ce qui veut dire
d'ailleurs, l'interprétation est la voie royale qui mène à l'inconscient. C'est pas le rêve, c'est l'interprétation.
Ce qui veut dire, Gérard Miller, que les patients, il faut les faire parler, en quelque sorte. Hein.
Ah, oui, ça, c'est le principe même de la psychanalyse. Nao disait talking cure, cure par la parole. C'est un mot d'ailleurs beaucoup plus heureux que psychanalyse. Hein. Freud n'a pas eu que des bonnes idées sur les termes.
Mais c'est pas très beau, psychanalyse.
Non, puis c'est pas très clair, le psychisme en question. Oui. Et pour compléter juste ce que dit M. de Mijola, c'est qu'effectivement, on a 95 études sur l'hystérie, 96 la première fois où apparaît, et on date souvent, et c'est ce que Freud souhaitait un petit peu, de la parution de la science des rêves, et il triche un petit peu d'ailleurs sur la date, on date souvent de 1900. Moi, à mes étudiants, je dis souvent, c'est 1900, vraiment la naissance de la psychanalyse. Mais
c'est facile à retenir.
Oui, c'est facile à retenir, c'est pas tout à fait exact, c'est un petit peu plus tôt quand même.
En 99.
Voilà, 99.
Et c'est l'interprétation du rêve.
Et l'organisation de la thérapie se met en place d'emblée, c'est-à-dire qu'on a tout de suite le bon nombre de séances, la bonne durée.
Alors ça, c'est ça qui est formidable. D'abord, Lacan disait une fois, on ne sait pas exactement ce que Freud faisait. Et quand on lit les récits des gens qui ont fait une analyse avec Freud, mais j'oserais presque dire, c'est à se tordre de rire par rapport à ce que deviendra la psychanalyse. Il y a des gens qui vont voir Freud à Vienne, qui passent, je ne sais pas, quelques matinées à se promener avec lui dans un jardin, qui disent « j'ai fait une analyse avec le docteur Freud ». Il y a d'autres, effectivement, patients qui viennent tous les jours. Et d'ailleurs, ils viennent tous les jours pendant une heure, ce qui fait que quasiment 6-7 personnes faisaient vivre l'ensemble de la famille Freud. Parce que faites le calcul, effectivement, ils pouvaient recevoir 7 patients par jour. Donc, il n'y a pas, à ce moment-là encore, une pratique rigoureusement définie. Mais c'est vrai qu'on s'oriente plutôt vers des pratiques une heure par jour, très souvent.
Bien sûr. Mais au départ, déjà, il a prévu dès 1904... que ça se passe en position allongée, qu'il faut laisser parler les patients, etc. C'est sa technique.
Tout ça est assez tôt.
Et il commence au départ par leur imposer presque un thème à chaque fois. Et en 1907, à l'occasion de l'homme au rat, qui sera une de ses analyses célèbres, il pense qu'il faut laisser le patient choisir lui-même, au départ,
la liberté totale.
La liberté totale, exactement.
Alors, à partir de quand Freud est-il connu ? Quand est-ce que cette nouvelle thérapie fait tache d'huile, si je puis dire ? Est-ce qu'il y a d'abord des disciples à Vienne même ?
Non, pas à Vienne même. Ils viennent justement de tous les pays d'Europe, pratiquement. Et ça lui fait son splendide isolement, comme il l'a dit lui-même, cesse dans les années 1906-1907, où progressivement, d'Allemagne arrive Abraham, de Hongrie Ferenczi, d'Angleterre Jones, etc., qui vont constituer les premiers disciples de Freud et qui vont aider à la transmission de la psychanalyse à travers l'Europe.
L'autre grand nom qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de Jung, évidemment, qui d'abord a été très proche de Freud, évidemment.
Qui était supposé être son successeur, son héritier,
son dauphin,
son fils,
oui,
voilà. Son dauphin. Mais tous les noms qui viennent d'être cités, Ferenczi et les autres, et même Jung, il faut bien voir que c'était des types incroyables. C'est-à-dire c'était des gens qui étaient tout le contraire de ce que la psychanalyse donnera avec, je ne sais pas, les médecins de Woody Allen. C'était des gens qui allaient dans toutes les directions, c'était des gens... par certains côtés, mais au bon sens du terme, folle dingue. Ils étaient passionnés de tout. Et même Freud. Souvent, on dit, par exemple, Freud croyait à la transmission de pensée. Freud croyait pas à la transmission de pensée, mais il voulait tout vérifier. Donc, par exemple, quand il était dans une pièce et qu'il avait un pressentiment en se disant, mon fils est malade, il courait à la maison vérifier s'il était malade et il notait, il n'est pas malade. Et très souvent, quand son fils était malade, par exemple, il ne sentait rien et il le notait. Donc on s'est dit, il croit à la transmission de pensée ou il s'intéresse au surnaturel. Non, c'était des gens qui regardaient tout, qui étaient d'une culture incroyable. Quand vous lisez certains textes de psychanalyse, vous avez, je ne sais pas, psychanalyse et coup de soleil. Enfin, ils cherchaient aussi loin que possible.
Oui, les sujets les plus
étonnants. Oui, et c'est comme ça aussi qu'une discipline se crée avec des gens qui ne sont pas immédiatement sur des rails.
Puisqu'on parle de personnes hors rails et de sujets très inattendus, Catherine nous envoie un message en disant qu'elle adore cette émission, elle trouve ça passionnant. Non, et elle aurait adoré qu'on évoque également Jacques Lacan, qui a disparu il y a 31 ans. On ne parlera pas de Lacan aujourd'hui. Nous allons évoquer dans un instant une personnalité très forte et très extraordinaire. C'est celle de Marie Bonaparte, qui a été une des dernières disciples directes de Freud. Si on devait retenir, on peut dire le successeur, en dehors de Jung, puisqu'il y a scission en 1911, c'est terminé.
Un successeur, 14.
Un successeur de Freud, Alain de Mijola.
Non.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Freud est resté tel quel. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai suggéré qu'on n'utilise plus le mot psychanalyse avec un P majuscule, mais qu'on le remplace par la pensée de Freud. C'est la pensée de Freud qui a continué, qui a fermenté différentes personnes, mais il n'y a pas eu de successeur direct.
Il n'y a pas eu de successeur direct, mais il y a eu quelqu'un qui a cru qu'elle pouvait, puisque c'est une femme, s'occuper de l'œuvre de Freud, c'est sa fille, Anna. Et c'est oui, elle qui, d'une certaine façon, va aussi beaucoup orienter l'histoire de la psychanalyse après la mort de Freud. Sans être, évidemment, ce qu'on appelle un successeur.
Non, vraiment.
Nous la retrouvons, si vous voulez bien, dans un instant. Merci beaucoup à vous deux des lumières dont vous nous avez fait profiter.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit consacré aujourd'hui à Marie Bonaparte, Franck.
Cet immeuble de pierre très cossu, très bourgeois, cette façade bosselée, ce porche d'entrée voûté avec sa lourde porte de bois ciré, elle les a reconnus tout de suite pour les avoir vus en photo. En cette année 1925, l'adresse du 19 Berggasse, dans le quartier nord de Vienne, ce 19 Berggasse, entre le palais Liechtenstein et le musée, le marché aux puces, cette adresse est connue dans le monde entier. C'est l'adresse du célèbre docteur Freud. La visiteuse est émue. Elle entre, elle salue la concierge, elle monte au premier étage, elle sonne à la bonne porte, celle du cabinet, côté cour. Faut savoir qu'en face, sur le palier, l'autre porte côté jardin donne sur l'appartement privé de la famille Freud. De l'autre côté, une voix sourde lui demande son nom. « Princesse Georges de Grèce », répond-elle. La porte s'ouvre. Il est là, il lui tend la main dans la pénombre de son antre. C'est un homme là, de près de 70 ans, atteint déjà d'un cancer de la mâchoire, qui reçoit cette femme de 43 ans, vêtue sobrement. Il la précède dans le petit couloir, il y a la salle d'attente juste à la droite, il la laisse de côté. Il traverse le cabinet où trône le fameux divan. Et il l'a fait asseoir dans son bureau, partout sur des étagères soigneusement cirées. Vous avez des statuettes, des objets d'art plus ou moins anciens, plus ou moins symboliques, des statuettes et des objets que Sigmund Freud collectionne depuis toujours. Nous allons faire connaissance, lâche le maître. Ça tombe bien, la visiteuse est venue pour ça. Il faut dire que ce n'est pas tout à fait n'importe qui. Elle est Altesse royale, cette visiteuse, par son mariage avec le prince Georges de Grèce et Danemark. Elle est née dans la famille impériale française, puisqu'elle porte le nom de Bonaparte. Elle est née en 1882. Son père était le petit-neveu de Napoléon, il était le prince Roland Bonaparte. Et sa mère, alors ça c'est encore plus étonnant, sa mère est la fille du célèbre François Blanc, le richissime fondateur du casino de Monte-Carlo et de la société des Bains de Mer à Monaco. On peut dire donc que la petite fille a connu une enfance dans un milieu très prestigieux, très fortuné, mais ce n'est pas une enfance facile, au loin de là. Sa mère meurt un mois après l'avoir mise au monde, est emportée par une embolie. Elle va rester donc fille unique, assez solitaire. On va la voir développer très tôt une véritable passion pour les animaux, des petits animaux qu'elle ramasse dans son jardin à chaque fois. Enfin, vous savez, c'est ces enfants qui établissent avec les animaux un lien quasiment mystique. Elle est élevée par sa grand-mère paternelle, une femme de très fort caractère qui a pour l'assister toute une armée de nannies. Éducation traditionnaliste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On lui apprend davantage la couture que la littérature, mais elle se rattrape, Marie, elle se rattrape tôt en passant son temps dans la bibliothèque de son père. J'ai reçu la semaine dernière, c'était notre première émission de la saison, Bertrand Dekkers pour son ouvrage sur les folies amoureuses de l'histoire. Eh bien, il consacre un chapitre à Marie Bonaparte et voici ce qu'il nous raconte. Un soir, dit-il, au détour d'un couloir, dans l'obscurité, Marie surprend une conversation entre deux femmes de chambre. « Vous ne savez pas ce qu'on raconte. C'est le prince qui a tué la princesse. Mais oui, pour hériter. »« Papa a tué maman ?» La petite fille répète cette phrase en boucle et étrangement, ça ne l'effraie pas. « Qu'il faut être courageux, qu'il faut être passionné pour donner la mort, se dit-elle. Un jour, est-ce que je connaîtrai moi aussi ce sentiment-là » En plus de sa langue maternelle, ajoute Bertrand Dekkers, seule ou aidée de précepteurs, Mademoiselle Bonaparte s'entraîne à parler et à écrire 5 autres langues, l'anglais, l'allemand, le grec, le danois, l'italien et l'espagnol, mais c'est surtout le latin qu'elle aimerait apprendre. Marie voudrait aussi aller au lycée, elle voudrait passer son bac. Sous les stucs des salons tapissés d'or, elle se prend à rêver d'entamer des études de médecine. Pourquoi la médecine? Parce que c'est le meilleur moyen de connaître l'homme, de le découvrir. Déjà, elle a trouvé sa voie. De l'enfance au dernier jour de sa vie, la passion de cette héritière de Napoléon, ce sera de comprendre.
«
Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film de David Cronenberg, A Dangerous Method. À tout de suite pour la suite du récit de Franck Ferrand.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Le récit consacré aujourd'hui à Marie Bonaparte, qui était à la fois princesse et psychanalyste.
L'un des outils de compréhension du monde, du moins c'est ce que cette princesse et psychanalyste, enfin ce qu'elle deviendra, croit, c'est l'amour. Dès l'âge de 16 ans, elle s'éprend éperdument d'un secrétaire de son père, M. Léandri, qui est un Corse de 38 ans. Scandale, on l'imagine. Et d'autant plus que cet Antoine Léandri, en vérité, n'est pas un homme honnête, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va profiter de la situation, faire chanter la jeune fille qui, trop tôt, trop brutalement, perd du coup ses illusions. Devenu bientôt l'un des partis les plus avantageux de la capitale, les princesses Bonaparte et en même temps les richissimes, vous imaginez ça. Marie habite toujours chez son père, avenue d'Iéna à Paris. Elle ne se mariera cependant qu'en décembre 1907, c'est-à-dire à 25 ans révolus. L'heureux élu, un beau prince d'origine danoise, de 13 ans plus âgé qu'elle, le prince Georges de Grèce, qui est le deuxième fils du roi Georges Ier de Grèce. Un mari presque idéal, doté de multiples qualités, à ceci près qu'il préfère les hommes, en tout cas un homme, son jeune oncle Valdemar de Danemark, ce qui évidemment n'est pas pour Marie le gage d'une union très épanouie. Le couple donne pourtant naissance à deux enfants, le petit prince Pierre en 1908 et la petite princesse Eugénie en 1910. Pour le reste, Marie va devoir apprendre à aimer autrement ce mari un peu particulier. Alors on lui prête plusieurs aventures avec diverses personnalités, dont le grand Aristide Briand lui-même. Elle se cherche, Marie. Elle multiplie les expériences, elle se fait refaire le nez, ce sont les débuts de la chirurgie esthétique. Elle rencontre, ça fait partie de ses expériences, le psychanalyste français René Laforgue, donc un disciple de Freud. Et c'est par lui qu'elle rencontre Otto Rank et qu'elle se rapproche donc du maître de Vienne. La rencontre avec le professeur a donc lieu, je vous l'ai dit, en 1925. Voici ce qu'écrit Alain de Mijola, qui était notre invité il y a un instant. Voici ce qu'il écrit dans son ouvrage « Freud et la France ». De l'hôtel Bristol de Vienne où elle loge, la princesse Marie Bonaparte fait savoir à Laforgue qu'un très fort transfert positif s'est immédiatement établi. « J'ai vu cet après-midi Freud, écrit-elle, et l'impression qu'il m'a faite dépasse tout ce que j'en attendais. D'abord cette grande douceur qui est en lui, alliée à tant de puissance, on le sent en sympathie avec toute l'humanité qu'il sut comprendre et dont on n'est qu'un imperceptible morceau. Il me prendra tous les jours à 11 heures. Il m'a dit que je jugerais moi-même même quand l'analyse serait finie, et si j'avais besoin de quelques jours d'absence, il les accorderait. Je l'ai trouvé pas mal portant, mais il semble un peu fatigué. Aussi, m'a-t-il dit, ne prend-il plus de grands malades, et il a ajouté en souriant qu'il ne pense pas trop se fatiguer avec moi. J'étais, dit-elle, écrit-elle plus loin, j'étais très déprimée hier soir en arrivant dans un hôtel aux lugubres appartements, mais depuis que j'ai vu Freud, je me sens mieux. Ces lettres suivantes, nous dit Alain de Mijola, témoigneront de cette ambiance assez unique dans laquelle se déroule l'analyse de la princesse. Je cite sa lettre à elle. « Moi, je suis ici dans une complète solitude hormis Freud, mais cela suffit à remplir mes jours. Quel être merveilleux, unique, et comme le monde de longtemps n'en vit et n'en verra plus. La hauteur du caractère est égale à celle de la pensée et le contact quotidien avec un pareil esprit est le plus grand événement de ma vie. Je connais ici deux ou trois personnes, je n'ai pas voulu les voir le plus tard possible. Leur rencontre troublerait l'immense émotion et contemplation où je vis. » Dans son ouvrage « Scandaleuse princesse » aux éditions Point de vue, Philippe Delorme consacre un chapitre à Marie Bonaparte et il écrit qu'au printemps 1926, je le cite, « Marie Bonaparte quitte l'Autriche auréolée de la gloire d'avoir été analysée par le maître. Dès lors, elle met toute son énergie et sa fortune au service de la cause et le 4 novembre 1926, elle devient cofondatrice de la Société psychanalytique de Paris à qui elle offre un local boulevard Saint-Jacques. » Évidemment, tout ça fait scandale. Une fois de plus, les extravagances de Marie Bonaparte, tout ce qui passe pour des extravagances, alors que bien souvent il s'agit d'un désir passionné d'explorer tous les aspects de la psychologie humaine. Ces extravagances, dit-on, sont innombrables. Dans un instant, Philippe Delorme nous en donne un aperçu. Disons avant cela tous les fruits que va donner l'amitié profonde, l'amitié très vive née entre un Freud vieillissant et sa cliente princière. Freud ouvre à Marie des horizons insoupçonnés. Elle le dit, c'est la grande expérience de sa vie. Et de son côté, Marie va mettre sa fortune, ses relations, toute son influence, qui est très grande, au service de la psychanalyse, dont elle ouvre donc la société officielle en France. L'admiration, l'engouement de la princesse Marie pour Freud est tel que dans les milieux psychanalytiques, on va pas tarder à la surnommer Freud Madi. Elle devient elle-même psychanalyste en 1928, tout en continuant d'assumer son rôle d'altesse royale dans toutes sortes de manifestations officielles, soulignons-le. Elle continue aussi à élever ses enfants, bien entendu. 10 ans plus tard, en 1938, au moment de l'Anschluss et de l'entrée des nazis en Autriche, Marie Bonaparte va remuer ciel et terre pour accomplir un véritable exploit. Elle va arriver à négocier pour faire sortir Freud d'Autriche et le recueillir en France. C'est encore elle qui va organiser son départ pour Londres, Londres où Freud s'éteindra le 23 septembre 1939, à l'âge de 85 ans. Évidemment, la princesse Marie sera au premier rang pour assister aux obsèques du grand homme. Elle pleurera à l'éloge funèbre prononcé par Stefan Zweig. Les cendres du maître seront déposées dans une jarre que lui avait offerte Marie Bonaparte.
Extrait sur Europe 1 de la symphonie numéro 10 de Gustave Mahler, Franck.
Dans un instant, Philippe Delorme sera avec nous. Il est déjà avec nous pour tout vous dire, pour nous parler non seulement de Marie Bonaparte, mais d'un certain nombre de scandaleuses princesses.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre invité du jour, Franck, sur Europe 1, Philippe Delorme, il est historien, grand reporter et coordinateur éditorial du trimestriel Point de vue Histoire, spécialiste des têtes couronnées et auteur notamment de Scandaleuses princesses, criminelles ou volages, aux éditions Point de vue Express Roularta.
C'est un livre extrêmement sympathique et très amusant à lire, puisque les princesses dont on parle ne sont pas du tout des princesses conformistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la plus anticonformiste de toutes, c'est évidemment notre Marie Bonaparte. Freud Madi, l'appelait-on. C'était pas très gentil, mais elle était complètement... On peut dire qu'elle avait eu la révélation en 1925.
Alors là, c'est la dernière partie de sa vie où elle retombe finalement dans un certain conformisme en devenant un peu la gardienne du dogme freudien. Et effectivement, elle ne sera pas, après 1945, accompagner l'évolution de la psychanalyse française. Mais bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a apporté, qui a aidé en tout cas par ses deniers à introduire la psychanalyse en France.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui ont connu la princesse Marie en ont été marqués. Je me rappelle des confidences du prince Charles Bonaparte, par exemple, qui racontait comment elle faisait des bains de mer très très âgée encore, et il avait été frappé, lui, par le perroquet qui chez elle occupait, on peut dire, tout l'espace. Je me rappelle également les confidences du prince Michel de Bourbon Parme, racontant qu'il avait servi de chauffeur, on peut dire, à Marie Bonaparte à une époque où elle voulait à tout prix interviewer Dominici. C'était la grande époque de l'affaire Dominici. Elle voulait rencontrer Dominici, ses proches, etc. Tout ce qui... On connaît la célèbre phrase, hein, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, mais tout ce qui était de nature humaine, tout ce qui relevait de la psyché, la passionnait finalement. Philippe
Delorme. Oui, alors on a des anecdotes. Elle poussait très loin ses investigations, puisqu'on raconte que lorsque son fils Pierre a été... opérer des amygdales, elle a voulu goûter, elle a demandé au chirurgien de mettre les amygdales de côté pour les faire frire et ensuite essayer de goûter le goût de la chair humaine. Mais bon, il y avait un goût d'éther qui a gâché son plaisir, en quelque sorte.
C'était quand même un personnage assez, on pourrait dire, assez libre. Dans une époque où on l'était
libre,
très peu.
Libre, là, tout ça, c'est un peu ambigu, parce que sa liberté venait d'une grande frustration. C'était une femme qui, avant tout, a une grande frustration sexuelle. Vous avez évoqué son mariage un peu malheureux, même avec un homme qui était très 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 aimant et très
qu'elle aimait.
Bon, il y avait une véritable affection entre eux, mais au niveau sexuel, ça évidemment, ne passait pas évidemment. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été à la recherche depuis son enfance, finalement, d'une figure paternelle, puisque, comme vous le disiez, elle a été élevée par une grand-mère phallique, comme elle disait, donc très très dominatrice, très autoritaire. Et c'est avec Freud finalement qu'elle va trouver à la fois ce côté paternel, cette douceur et cette autorité qu'elle a cherché toute sa vie.
Moi, ce qui me fascine chez elle, c'est sa dimension enquêtrice. Elle est sur le terrain, elle veut constamment rencontrer les personnes dont elle peut estimer qu'ils sont déviants d'une manière ou d'une autre, ou qu'ils ont une psychologie particulière.
Il y a encore cette anecdote, effectivement, de l'exhibitionniste qu'elle rencontre un jour au Bois de Boulogne, puisqu'elle habitait dans une magnifique villa à Saint-Cloud, et donc elle faisait un petit tour le matin au Bois de Boulogne, et un jour, un exhibitionniste lui ouvre son imperméable, et elle arrive avec son lorgnon. C'était déjà une vieille dame, elle regarde ça d'un peu près, elle dit « Oh, c'est très intéressant », elle lui tend sa carte, elle lui dit « Venez me consulter demain », et évidemment, le type n'est jamais venu, mais enfin, c'est pour montrer à quel point elle s'intéressait à tout, elle ne se démontait jamais.
Elle est morte très âgée cette...
Elle est morte à 80 ans, d'une leucémie assez foudroyante, pas très âgée, mais en tout cas après une vie extrêmement, extrêmement remplie, extrêmement riche. C'est vraiment l'héritière des Bonaparte, je dirais, parce que dans cette famille Napoléon, il y a les Napoléons d'un côté, assez conformistes, assez bon chic, bon genre. Je
dirais, la famille Bonaparte, est à cheval sur les deux aspects.
Et les Bonaparte, c'est le général de la République
et de la Révolution.
Et de la Révolution. Et donc voilà, c'était plus une Bonaparte qu'une Napoléon.
J'avais envie de faire une analyse. J'étais pas bien, mais sans raison précise. J'avais besoin de parler, j'avais besoin d'être écouté. Et un beau jeudi à 5 heures, j'ai déballé ma vie, mon cœur, sur un divan à fleurs.
J'avais besoin de parler, nous chante Philippe Châtel sur Europe 1 dans son analyse.
Je vous propose, sur ces mesures de la chanson de Philippe Châtel, de laisser un peu de côté la psychanalyse, Freud et la princesse Marie Bonaparte, mais de rester avec vos scandaleuses princesses, Philippe Delorme. Ces scandaleuses princesses, alors on ne peut pas toutes les évoquer, ça ferait l'objet, d'ailleurs chacune ferait l'objet d'une très belle émission. J'aime bien ce genre de livre parce que ce sont de véritables mines pour trouver des sujets d'émission incroyables. Vous parlez d'ailleurs de Théodora, de Frédégonde, de Lucrèce Borgia, etc., qui ont été quelques-unes de nos héroïnes ici même dans cette émission. J'aimerais que vous nous disiez un mot de celle qu'on évoque assez peu souvent, même si mon ami Stéphane Bern lui a consacré récemment une émission Secret d'Histoire, c'est Christine de Suède.
Alors Christine de Suède, c'est aussi une personnalité féminine assez difficile à cerner. On a même mis en cause le fait qu'elle soit une femme, vraiment, puisqu'il y avait vraiment presque un hermaphroditisme chez elle. Hein. On n'a jamais su vraiment ce qui était de sa sexualité. Elle était la fille donc de Gustave II Adolphe. Elle était née en 1626 et donc elle est l'héritière du trône de Suède, puisqu'il n'y avait pas de garçon. Et elle a été élevée vraiment comme un homme, comme un garçon, parce que son père aurait voulu un héritier masculin.
Ça fait un peu penser à Marie Bonaparte, hein, d'ailleurs. On est un peu dans le même genre de personnalité.
Il y a un certain parallélisme entre les deux personnes. C'est quelqu'un qui est assoiffé de liberté, assoiffé d'indépendance. Elle va donc devenir reine de Suède, mais
elle aime les expériences, elle aussi. Voilà, elle voyage beaucoup.
Elle quitte très vite son trône parce qu'elle veut voyager, elle veut parcourir l'Europe, elle veut découvrir les hommes, découvrir les réalités du monde. Et donc elle va ainsi voyager, on va l'appeler la reine vagabonde. Elle va aller en France, où d'ailleurs elle fait scandale à la cour de France, puisqu'elle assassine même un de ses favoris à Fontainebleau, dans la galerie des Serres. Ensuite, elle va aller
en... Ça fait un scandale absolument énorme.
C'était tout de même un peu, même pour une reine souveraine...
C'est embêtant,
commettre un assassinat en public, c'est tout de même un peu gênant. Bon, on l'a décrit aussi comme quelqu'un de très négligé au niveau de la propreté et de l'habillement.
Ça, c'est décevant, parce qu'on a toujours l'image de Greta Garbo dans La Reine Christine.
C'est pas du tout Greta Garbo, ça, c'est une femme femme aux mains très sales et qui sentait assez mauvais, paraît-il.
Changeons de sujet. Et là, il y a une chose qui m'a beaucoup amusé, parce que je crois connaître assez bien un certain nombre de figures historiques, évidemment, mais il y en a une que je connaissais pas du tout, c'est vous qui me la faites découvrir, c'est Draga de Serbie. Que le nom, déjà.
Draga Machine, puisqu'elle était mariée avait été mariée en première noce avec un ingénieur tchèque qui s'appelait Machin ou Machine. Et donc, c'est la reine, c'est une reine aussi qui a défrayé la chronique, puisqu'elle épouse le jeune roi Alexandre Obrenović, qui est donc le dernier descendant de la dynastie Obrenović. Il faut savoir qu'en Serbie, pendant tout le 19e siècle, deux familles se sont livrées une vendetta meurtrière, les Obrenović et les Karađorđe, et que donc le dernier Obrenović, Alexandre, va, en épousant cette Draga, cette reine Draga, qui était pratiquement de 20 ans son aînée, on ne sait pas exactement d'ailleurs sa date de naissance, va précipiter sa chute et le couple va être assassiné en 1903 dans d'atroces conditions.
Ah, c'est
à Belgrade.
Le coup d'État, hein, c'est ça. Oui.
Voilà, donc c'est ce coup d'État qui assassine ce roi et cette reine et qui met sur le trône donc Pierre Ier Karađorđe, donc les Karađorđević, dont le descendant actuel est toujours le prince héritier de Serbie.
Est-ce qu'on pourrait la réhabiliter, cette Draga, en dépit de son prénom et de ce que vous venez de nous raconter ?
Oui, je pense. Elle a été victime des circonstances. C'était une femme qui avait eu beaucoup de difficultés dans la vie, qui avait été veuve très jeune, qui avait dû vivre par elle-même, qui écrivait, qui était instruite, qui a même était journaliste, qui écrivait dans des magazines féminins. Donc c'était une femme finalement qui avait... c'était un peu une féministe avant l'heure, mais dont cette personnalité un peu trop indépendante cadrait mal finalement avec ce que les Serbes de la fin du 19e siècle imaginaient d'une reine.
Alors je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs ont froncé les sourcils. De qui nous parle-t-il ? Eh bien, nous parlions de la reine Draga de Serbie, qui était l'épouse du roi Alexandre Ier.
Alexandre Ier, Obrenović.
Obrenović, oui, parce qu'il ne faut pas confondre avec Alexandre de Yougoslavie, évidemment. Alors, toutes ces personnalités et un grand nombre d'autres, puisque vous faites un véritable florilège de tempéraments extravagants, se retrouvent, Philippe Delorme, dans vos scandaleuses princesses, criminelles ou volages. C'est aux éditions Point de Vue. Et aux éditions Point de Vue était également l'ouvrage de Bertrand de Cars dont je parlais tout à l'heure, Les folies amoureuses qui ont fait l'histoire. Je signale aussi que le dernier numéro, Point de Vue Histoire, celui qui vient de paraître là, est consacré au Concile Vatican II, puisque ça va être le 50e anniversaire.
Voilà, plus largement à l'histoire des papes, à cette dynastie où le père n'a jamais succédé le fils n'a jamais succédé au père, mais c'est quand même une dynastie qui existe, enfin une succession d'hommes depuis 2000 ans, et donc on a consacré ce numéro à la saga des papes.
À la papauté, nous ferons une émission, bien sûr, sur le 50e anniversaire du Concile Vatican II. Merci beaucoup,
merci.
Philippe Delorme.